Denis est en place. Moi, je suis dans place avec vous autres jusqu'à 14h. Denis est là pour le pit stop. Et Denis, j'ai pas le choix de te le dire, l'occupation double Nunavut qu'on avait organisée pour Pascal ne semble pas avoir fonctionné.
Oh non!
Fait qu'elle est de retour avec nous pour quelques mois ou quelques années.
Ça,
le temps qu'elle rencontre un prince arabe.
C'était-tu un putsch?
Oui, c'est un putsch.
OK, vous essayez de me faire sortir.
Oui,
là.
Ben, okay. Exact.
En plus, ça a super bien été avec Jacinthe Varelle, là, de ce que j'ai su.
Oui,
c'était exceptionnel.
Super gentil, puis on en a appris plus sur son sur sa vie d'avant.
Oui.
Jacinthe Varelle, qu'on connaît aujourd'hui, je ne savais pas qu'elle avait travaillé dans le système de la santé comme haut fonctionnaire, de ce que je comprends.
Puis tu remarqueras qu'elle, pendant que tu es ici, on ne l'envoie pas au Kilimanjaro.
Qu'est-ce que je veux
dire? Oui. C'est vrai qu'à chaque fois que je pars, on dirait que vous vous dites, puis vas-tu rester là-bas?
On veut ton bonheur.
Oui,
mais Pascal, on veut ton bonheur.
Mm-hmm.
Oui, oui.
Ain't no mountain high enough, qu'ils disent.
Ben oui, exact.
On va retourner à skidoo avec mon Inuit.
Puis on avait une conversation pendant la pause, tu sais, à savoir, tu sais, qui partirait du jour au lendemain? Tu te fais offrir là, un ride au Nunavut, tu y vas-tu?
Nunavik.
Comment?
Nunavik.
C'est pas Nunavut?
Il y a Nunavut puis Nunavik.
C'est pas la même place.
Ça finit par un K, c'est ce qui fait la différence?
Mais c'est juste que moi, c'est Nunavik, ouais. Fait que je vais juste te dire.
Fait que toi, c'est Nunavik.
C'est ça.
Bon, mais donc, demain, on t'offre d'aller au Nunavut. Tu y vas-tu? Tu y vas-tu? Moi, c'est clair et net qu'avec ma situation actuelle, je peux me le permettre. T'sais. Même si j'ai des enfants, je dis, je quitte pendant 16 jours. Puis c'est sûr que la mère de mes gens, elle dirait, dégage, mm-hmm. tu vas triper à mort.
Mm-hmm.
Puis c'est le genre de choses que j'aime découvrir. Denis lui dit, c'est un peu, ça va dépendre de avec qui je vais être.
Ben, mon premier réflexe, c'est de dire non, question d'obligation familiale.
Ben
puis
oui.
Mon deuxième réflexe, c'est de dire, si j'avais été dans vingtaine, c'est sûr que j'aurais sauté sur l'opportunité. Puis la job qu'on fait permet ce genre de trip-là une fois de temps en temps. Puis tu sais, j'en connais qui, au fil des années, sont allés suivre les militaires en Israël mm-hmm. ou ailleurs. Moi, c'est des choses que j'aurais aimé faire. Puis moi, c'est à très petite échelle, mais je suis pas un gars qui aurait fait du parachute, mettons, dans sa vie. Là.
C'est une pointe.
C'est vraiment pas mon trip. Puis on a eu l'opportunité de le faire dans mes premières années de radio. J'avais jamais pris l'avion.
Ouais.
Fait que je me suis dit, je casse tout en même temps. J'étais un gars qui a le vertige.
Tu l'as fait?
Oui, je l'ai fait.
Je suis fier.
Je l'ai fait. Fait que je suis monté dans un petit avion. Ça a été mon premier décollage.
Ah, mais tu t'as les données difficiles dans un petit avion?
Oui, ben c'est pas moi qui décidais. J'ai juste vu, OK, il y a une opportunité, puis je savais pas là, comment ça allait fonctionner, puis tout.
Pis oui, jugement, c'est ça, tu l'aurais pas fait.
Ouais, un avion de ligne, là, tu t'assois dans l'avion, tu regardes pas par le hublot, t'as aucun problème.
Ouais, c'est après avoir fait mon premier voyage en avion que j'ai constaté la différence entre les deux, puis je me suis dit, ouais, Gravel, tu t'es mis ça rough.
Vraiment.
Mais, j'ai tiré sur le plaster,
vraiment.
Comme on dit. Là.
Pascal, il y a un Kevin qui t'écrit actuellement mm-hmm. au 418-971-101. Il disait, Pascal, tu devais être bien là-bas. Il n'y a pas de Kevin.
Je sais, c'est quel
il y en avait-tu?
Non. Non.
Y a-tu un genre de nightlife Inuit là-bas?
Non. Non. Y a pas, écoute, il n'y a pas de restaurant.
Il n'y a pas de place pour danser.
Pas de restaurant. Il y a un aréna puis un gars de Montréal
ouais.
qui est là depuis 15 ans. Qui a développé un sport-étude. Il y a quelqu'un qui avait développé le hockey au Nunavik, en fait, à George River, mais lui a développé un sport-étude pour motiver les jeunes à rester à l'école.
Un peu comme Joey Junot a fait.
Mais c'est Joey Junot. Celui qui a initialement
parti
le hockey, c'est Joey Junot. Mais le sport-étude, c'est Maxime Lalande.
Okay.
Lui, il a vraiment lié ça aux études pour avoir une motivation.
Très cool.
Il a ouvert le hockey à tous les jeunes. Ça veut dire pas juste à ceux qu'on voulait développer comme élite ou autre. Bon, chose étant... c'est pas mal ça qui fait en sorte qu'ils ont du fun. C'est dans ce hockey-là, dans les petites festivités au sein des maisons, pis tout ça, mais pas de nightlife, pas de restaurant, pas... C'était vraiment l'autre partie de moi qui était stimulée. Ouais.
Le marché est ouvert pour ouvrir un karaoké là-bas, Pascal.
Je comprends, mais...
Tu devrais évaluer l'opportunité.
Ouais, mais j'arriverai pas avec ma personnalité du Sud en disant « Moi, m'a vous divertir, c'est pas de même t'arriver dans une communauté. »
Mais... ouais. T'avais-tu amené une coupe de petites bières dans le fond de ton sac pour prendre en haut?
Oui. Du vin, on avait des vignes, on avait
Nice.
Première soirée, tu sais, on
vignier,
était contents.
Un pilier.
Vignier! J'ai même pas pensé en apporter un parce que j'en bois pas vraiment au Québec. Là.
Ouais. L'oiseau bleu, c'est... Tu l'as-tu amené?
L'oiseau bleu.
Ouais. T'as pas connu ça, toi?
À
l'époque de l'oiseau bleu dans les dépanneurs.
Ça, c'est la bouteille blanche. Avec l'étiquette bleue. C'est, tout était répugnant là-dessus. Hein. C'est dans le temps qu'on buvait pas de vin au Québec. Puis on se donnait l'impression qu'on avait accompli quelque chose. Hey, ce soir, chérie, je te gâte, j'ai amené une bouteille de l'oiseau bleu.
Ça, c'était pas bon, là.
Ben, imagine-toi une bouteille de vin blanche avec une étiquette bleue. Il y a encore des vieilles affiches qui existent.
Il paraît qu'il faut pas juger les gens selon la couverture. Fait que j'aimerais ça, pas juger le vin selon la couverture. Mais écoute, d'habitude, c'est toujours une mauvaise idée.
Vas-y comme tu le sens, mais c'est un vin de dépanneur.
J'ai pacté du brocoli. Tu sais, j'ai pacté des choses dans ma valise. Ouais. Tout ce que j'ai forté, c'est de la combine. Tu te maquilles pas, t'es pas là-dedans, tu dors sur un divan, t'es tout croche, mais t'es heureux. C'est fascinant là, comment ton cerveau peut être, malgré tout, extrêmement confortable.
Mais, tu sais, je regardais les gens qui ont fait l'Everest, puis moi, il y a des images qui m'ont terrorisé. C'est pas la hauteur, c'est pas le danger, c'est la proximité des autres. Puis je m'explique, quand tu montes les plus hauts paliers de l'Everest, t'es en file indienne, puis t'es pogné dans le file comme t'es pogné dans le trafic à Québec. Si ça avance pas, t'avances pas. Mm-hmm. Puis le gars en arrière te pousse un peu parce qu'il est dans l'une, puis tu pousses un peu le gars en avant, puis tu peux rester là pendant une heure et demie sans que ça bouge. T'as-tu ce feeling-là dans l'entreprise que t'as eue ou dans la montée que t'as faite?
Là, tu le sais, j'étais pas au Kilimanjaro, hein.
T'as pas monté?
Ben, c'est en septembre.
C'est des plaines là-bas. Ouais,
ah, je pensais que tu venais de le faire!
Tu pensais que je revenais du Kilimanjaro?
Ben oui! J'étais convaincu que tu revenais du Kilimanjaro.
Denis, est-ce que t'es sérieux en ce moment?
Je suis très sérieux.
Là, tu nous niaises.
Pantoute.
Là, c'est ta plus grande joke à Boulevard.
Ah non. Hey, écoute, cette semaine, je suis full médicamenté, là. T'es pas revenu du Kilimanjaro?
Non, c'est pas encore fait, ça.
C'est pas encore fait?
Ça, c'est
non.
En dans le fond, si
je vais
un
je vais noter ma question, je la trouve bonne. je vais te reposer en septembre, OK?
Il parle de quoi? Il parle-tu du village où il y avait des côtes?
Je cherchais, puis j'étais gêné de te poser la question.
En haut de la côte, tu prends une bière?
Les filles riaient de moi hier, parce que je suis tellement perdu. C'est le NyQuil puis le DayQuil.
Oui.
C'est ça. Je suis caféiné, je suis médicamenté, je suis sous-nourri. Fait que ça donne ce que ça donne. Je suis désolé, je pensais que tu revenais du Kilimanjaro.
Ça, c'est parfait.
Je suis allée au Clinique Manjaro, par exemple. Là,
au Clinique?
Il y avait un Clinique Manjaro. C'est une énorme montagne.
Ah, c'est ça que Denis pensait. Ouais, c'est ça.
Oui, mais écoute, ça.
Il a juste mal lu.
On pouvait marcher où on voulait. Au Kilimanjaro, je serai dans une ligne, mais je te le dirai en revenant.
Ouais, c'est bon.
Ça, c'était vraiment juste une immersion sociale. J'avais plein
de questions à te poser, mais là-dessus, j'ai zéro question.
Oh! Mais t'es une personne décevante, là.
Ben là, écoute, moi, je m'étais préparé parce que le Kilimanjaro, j'avais une curiosité, j'avais une fascination. Puis là, moi, je te parle de parachute puis d'affaires tripantes. Ouais. T'es juste allé voir du monde. T'as fait du tourisme. C'est pas pareil.
J'ai pas fait du tourisme. J'ai fait de l'immersion, par exemple. C'est pas la même chose.
Ah bon?
Oui. Mais le tourisme, ça sent bien.
Je m'en vais pas faire du tourisme. Je m'en vais en mission commerciale pour la ville de Québec.
À Washington.
Oui.
Je comprends que c'est facile à rire, mais c'est juste que je fais une. C'était pas un voyage juste de plaisance.
Ouais.
J'étais pas dans le luxe du tout. J'ai manqué d'eau, on n'a pas eu de livraison d'eau, on a fini à Tain, on n'avait pas d'eau potable, on avait tout ce que t'aimerais. Mais mettons par la proximité.
Désolé, les amis, en passant, je comprends si c'est le dernier pit stop. Je comprends.
Tout est parfait. Hey, revenons à nos moutons, Pascal, puis on aura l'occasion d'en parler de ton voyage dans les prochains jours. Puis peut-être qu'on fera un Marceau soir spécialement pour ça. Puis tu pourrais inviter tes autres collègues qui étaient avec toi pendant ce voyage-là, si tu le désires. Ou sinon, si tu veux garder le spot sur toi, ben c'est ça. On t'invitera juste toi pour parler du Nuna.
Vic, t'es déjà désagréable à midi 11.
Ben oui, je vais juste changer le sujet.
Un désagréable puis un perdu.
Hey, parlons du RTC. Combien gagne le directeur général du RTC, du Réseau de transport en commun de la capitale?
Combien?
Ben dis-moi ça. Il gagne combien? Question, il gagne-tu 100 000? Il gagne-tu 200? Il gagne-tu 300? Il gagne-tu 400?
Ben, te le mettre à 125.
Toi,
mettons.
Tu dis 125. Ouais, Pascal! Ouais.
Moi, j'irais moins, là, 80.
80, ouais, mais là, c'est le directeur général du RTC. Ouais. Il pourrait gagner plus cher chez Calinette.
Ouais, je sais, je comprends, mais j'essaie de voir selon les finances du RTC. Mettons, tu sais, quelque chose d'intelligent, ça aurait été 80. Merci. Ouais.
Compte tenu du fait que l'organisme est en déficit depuis des années. Ça pourrait mériter un 80 000. Nicolas Girard gagne 260 000 piastres.
Wow.
Il est en poste depuis 2022 et ils sont incapables d'arriver dans leur budget depuis qu'il est en poste. Puis c'est pas juste de sa faute. Là. Probablement que l'ancienne administration y est pour quelque chose. Mais on parle de déficit par-dessus. Déficit tellement qu'on a dû demander au gouvernement provincial de mettre encore plus d'argent dans le transport en commun parce qu'on n'arrivait pas.
L'argument, c'est que si tu veux des gens de qualité, il faut que tu payes cher. Mais à partir du moment que tu payes cher pour avoir des gens de qualité, ce serait le fun de ne pas faire de déficit puis que le RTC fonctionne drette comme une barre. Donc là, on a deux problèmes. Ou en fait, on a un problème ou on a l'autre. soit qu'on a une personne trop payée qui n'est pas capable de faire les rendements, ou encore, le gars ne vaut pas sa valeur, puis on est prêt à tolérer à peu près n'importe quoi comme incompétence ou comme dépense au niveau du RTC.
Ça parle déjà beaucoup de l'organisation en place. Là. Soit on n'est pas assez compétent pour reconnaître les vraies compétences de quelqu'un puis s'assurer que ça fonctionne, ou encore, on s'en fout à un point où on peut aller piger dans nos finances, donner un gros salaire à quelqu'un dont on n'est pas sûr.
Hey, juste pour être sûr que je vous suis, le RTC, c'est les autobus?
Oui, c'est
ça. Okay, c'est bon. Good,
la capitale. Je suis dessus. Hey, les gens sont crampés. Sont comme... Mais... Ils cherchaient un peu pourquoi tu allais là.
Merci, mais c'est 260 000 qui gagnent. Puis tu sais quoi, si on me dit que le poste de PDG ou du DG du RTC, ça vaut 260 000, moi, je suis capable de vivre avec. S'il ne fait pas ton affaire, tu peux le sacrer dehors et tout ça.
Ouais.
Là, visiblement, au niveau du RTC, on n'est pas capable de contrôler les coûts des employés qui nous écrivent sont totalement insatisfaits de l'organisation pour qui ils travaillent. Et Maude Mercier-Larouche envoie un courriel. Maude Mercier-Larouche, c'est la présidente du RTC. C'est la collègue de Bruno Marchand. Et elle dit qu'elle recommande un boni de 4 % pour le directeur général du RTC. Parce qu'il le mérite.
Ah oui, il travaille fort, c'est mon ami.
Parce qu'il le mérite. Aïe, et Claude Villeneuve, que j'aime bien, là, je le trouve des fois trop mou là, comme chef de l'opposition officielle, mais Claude Villeneuve dit que ça n'a comme pas de bon sens de donner un bonus à quelqu'un qui n'est pas capable de rentrer dans son argent.
Ben on revient à sa clique, là.
Le RTC dans une condition précaire, puis là, ben Gérard gagne 260 000, puis on veut lui donner un autre bonus de 4 % parce qu'on doit donner des bonus une fois de temps en temps. Lui, il ne l'a pas eu l'an passé. On ignore les raisons pour lesquelles il ne l'a pas eu l'an passé. Mais là, on veut lui donner cette année. Ça représente un 10 400 de plus.
J'ai toujours eu un malaise avec la façon dont le maire Marchand défend le RTC. On sait qu'ils ont eu leur bulletin de performance puis que c'était pas bien bon. Puis finalement, c'était pas la performance du RTC le problème. C'était ceux qui avaient fait le bulletin. Puis on voit les chiffres, on comprend pas. Il y a un déficit. On continue de plonger là-dedans. Et la performance est où là-dedans? Je me vois mal obtenir... Remarque, je le prendrais là, parce que je suis de même. Là, mais je me vois mal obtenir un bonus si j'ai pas de performance. T'as-tu déjà eu un bonus, toi, à pas être bon?
Ça m'est jamais arrivé.
Même quand t'es bon, des fois, il y en a qui n'ont pas de bonus.
Ben oui.
Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai, ça. Mais ce que le maire dit, parce que le maire a dû réagir à la sortie de Claude Villeneuve en disant, voyons, non, le RTC va mal, pas capable de rentrer dans son déficit. Il gagne déjà 260 000. Mm. Voulez-vous bien me dire pourquoi la ville devrait décaisser encore 10 400 pour y donner un bonus? Et le maire dit... Ah, oh, vous savez quoi? Dans le contrat de M. Girard, là, ça prévoit des bonifications entre 0,1 % et 10 %. Bon. Donc, il est tout à fait normal que le CA du RTC discute de la possibilité d'accorder un tel boni. Et M. Marchand a insisté pour dire que le RTC a connu de bons coups au cours des... Là, je croyais lire des dernières années, mais ce n'est pas ça. C'est au cours des derniers mois, notamment en faisant augmenter son achalandage, depuis 2 mois et en développant rapidement le service à vélo qui est jusqu'à maintenant, le service à vélo, là, un bon service pour ses utilisateurs, mm-hmm. mais qui est un gouffre financier comme jamais on aura vu. Là.
On n'a pas beaucoup de données positives. Ça va être intéressant de regarder les candidats à la mairie puis de leur poser la question. Allez-vous être l'ami du RTC ou vous allez demander des comptes au RTC? Les années que le RTC n'a pas fait de déficit, c'est les années où la ville ne permettait pas au RTC de faire un déficit. Quand on est plus lousse, quand on donne plus de lousse, ben là, c'est normal que les dépenses filent un peu. On sait que Samamad va se présenter dans quelques jours. Lui, il en pense quoi de ce qui se passe présentement au RTC? Est-ce qu'il défend ça? Est-ce qu'il va mettre les gens du RTC au pas de façon financière? Claude Villeneuve, c'est un beau dossier, ça, dans lequel il peut plonger puis peut-être se démarquer du maire Marchand. C'est le problème qu'il y a depuis longtemps.
Mais Claude j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que dans une organisation comme le RTC, qui est payée par les contribuables, devrait y avoir existence de bonus?
Bien, si tu t'améliores le réseau de transport de la capitale avec l'achalandage sur un an, pas mm-hmm. sur deux mois, parce ouais. que ça ne veut absolument rien dire. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'il y ait des bonus.
Pour moi, je le vois comme si c'était ta job. Tu n'es pas au privé, tu es au public avec l'argent des contribuables.
Mais là, on prend l'argent du provincial, on injecte ça dans l'RTC, on se dit, il y a de l'argent bien en masse, puis on va se dire, tiens, on va y donner en plus un bonus, alors que concrètement, on n'a pas attendu un an pour voir si les chiffres avaient augmenté.
Mais je continue de challenger parce que je me dis, dans une organisation où c'est le transport, puis le transport en commun, t'es souvent déficitaire à la base, mais c'était quand même d'aller chercher un genre de ratio kiff-kiff ou quelque chose, ou d'augmenter justement la présence de citoyens dans tes autobus ou autres, est-ce que vraiment le bonus, les bonis, devraient être appliqués dans une organisation publique?
Je trouvais aussi que t'étais pas parti bien ben longtemps pour monter le Kilimanjaro. Je repense à ça.
Arrête de faire une parenthèse. Je ferme mon micro aux deux secondes parce que les gens arrêtent pas de niaiser en disant « Pis, c'était comment le sommet? As-tu mangé? Tu venais de dire que tu manges du fuck. »
Ouais. Là, je me disais, d'après moi, ils nous ont fait monter le tiers de la montagne puis ils ont redescendu. Et rien que parti ouais. du sommet.
Mais t'as bien répondu.
Je pense que ça devrait être comme le privé. C'est-à-dire, si tu augmentes la qualité de l'entreprise où tu es, puis c'est des chiffres ouais. qui sont significatifs. Il peut y avoir des bonus accrochés à ça, que ce soit au public comme au privé. Mais là, Claude Villeneuve a raison. Le RTC, actuellement, au niveau des finances, c'est un fiasco.
Depuis des années. Puis, tu sais, je veux dire, même quand Rémi Normand là, s'en occupait sous le joug de Régis Labeaume, là, rappelez-vous qu'on commençait à voir un peu la noirceur de cette organisation-là. Là.
Rémi Normand qui allait dans des entrevues avec un certain Denis Gravel et qui disait que le transport en commun à Québec, c'était incroyable. Et Denis Gravel lui posait la question, mais vous êtes venu comment ici? Puis il disait qu'il venait avec son propre véhicule parce qu'il y avait plusieurs déplacements.
Puis c'était...
Oui, c'est parce que j'ai plusieurs entrevues à faire aujourd'hui,
en
monsieur Gravel.
Journée.
Donc, vous prenez la voiture parce que c'est plus pratique. Ben oui.
Oui. Il parle des heures atypiques. Là. T'étais-tu
non, non,
au morning?
C'était le matin. C'était les heures de pointe. Là.
Puis il prenait son char. Mais je me souviens ce que tu avais dit. Tu as dit, oui, mais ça, c'est le cas de tout le monde. Plusieurs déplacements dans une journée.
Puis c'est ceux-là que tu veux amener à prendre l'autobus.
Mais il n'était pas capable de le défendre, son RTC.
C'est très rare que tu n'as pas à faire des pit stops sur une run là, au total tout.
Ça fait depuis 2006 que je fais de la radio et j'ai jamais vu quelqu'un au RTC dans les autres instances du RTC, mettons directeur général, là, homme comme femme, j'en ai jamais vu un se faire sacrer dehors parce qu'il était mauvais. Fait que c'est un 260 000 qu'on donne parce que c'est le salaire qu'on donne au DG, mais on va y donner des bonus qui sont basés sur absolument rien, mais c'est prévu au contrat, que ce soit 0.1% ou encore que ce soit 10%, c'est prévu. Donc, c'est normal qu'on discute de son bonus actuellement.
Ce serait peut-être beaucoup plus simple d'avoir des objectifs clairs et publics aussi, là, de dire, c'est quoi les objectifs du RTC? C'est-tu une augmentation d'achalandage de 4 ou de 5% sur un an? C'est-tu de réussir à mettre le déficit zéro ou à le faire baisser de tant de millions de dollars? Tu sais, c'est quoi les objectifs présentement qu'on a vis-à-vis le RTC? Il n'y a pas grand-chose de clair. Peut-être qu'ils ont, eux autres, c'est un tableau, mais c'est à nous autres, normalement, le RTC. À partir du moment où on verrait les objectifs, bien, on sera en mesure de dire oui, il mérite son bonus ou non, il ne mérite pas son bonus.
On dirait un parent qui dit à son enfant, « Hey, si t'arrêtes pas, t'as pas ton dessert. Hey, si t'arrêtes pas, t'as pas ton dessert. Hey, si t'arrêtes... Puis il te le donne pareil. Mm-hmm. Il y a quelque chose aussi là-dedans. Qu'est-ce qui est motivant pour ton employé, mettons, ou ton cadre et autres à aller atteindre, pas une excellence, mais du moins remplir son mandat au minimum quand le bonus est acquis?
C'est parce que ça te stimule pas à dépasser, ça te stimule pas à aller plus loin ou à aller plus
quelle
haut.
Quelle gestion de bofon, je m'excuse.
C'est bizarre. Mais... Ou qui nous justifie qu'il a fait un excellent travail, mais il travaille fort, puis c'est mon ami, ça, c'est pas des bonnes raisons pour avoir un bonus. Ça marche pas, là.
Tu sais, toi, t'es en onde, Denis, puis tu pensais que le Kilimanjaro, c'était un navic, là, puis on te prend pareil, là. T'auras juste pas ton boni.
Hey, c'est rare que je vous parle de faits divers, mais des fois, faut en jaser. On parle de la provenance des armes à feu qui ont été retrouvées dans des descentes là, concernant des mafieux et. Il y en a qui ont réussi à remonter des enquêtes. Ils ont réussi à remonter par où sont passées ces dites armes à feu-là. Puis régulièrement, toi et moi, avec Pascal aussi, on parle des fameuses réserves amérindiennes, où c'est un peu plus facile de faire passer du stock d'un bord comme de l'autre,
oui.
parce que c'est pas la même surveillance, et où peut-être que ça accommode certaines personnes de les laisser passer. T'as-tu entendu parler d'une librairie dans le coin de Stansted?
Non.
La librairie, là... Quand tu rentres à l'intérieur de cette librairie-là, il y a une grosse ligne noire qui est tracée dans le milieu de la bâtisse.
Ça, c'est la frontière, ça?
Ça, c'est la frontière Canada-États-Unis à l'intérieur de la librairie.
Et dans la librairie.
Mais tu peux rentrer par le Canada, mais tu peux aussi rentrer par les États-Unis. Mais il n'y a pas de douanier qui est à l'intérieur de la librairie.
Il n'y a pas personne qui surveille la ligne.
Non, personne.
Combien de livres sont vendus là, par semaine?
De quel bord? De quel bord est la caisse?
Quel livre?
Puis, dans une des armes à feu, bon, il y a une arme à feu qui a été retrouvée chez un mafieux qui serait passé dans cette dite librairie-là parce qu'il y a un gars qui est arrivé, qui est par le Canada, ou ben, en fait, du moins par les États-Unis. Il est avec son sac à dos. Il est allé acheter un livre dans cette dite librairie-là du côté américain, puis il est ressorti de l'autre bord du côté canadien.
Niaiseux de même.
Niaiseux de même.
T'arrives avec ton pack-sac porte-sud, tu pars avec ton pack-sac porte-nord,
mais c'est
personne
fou,
t'a vérifié.
Hein? C'est fou. Hein? Ben oui. Coup, ça,
mais j'ai une autre question à te poser, Denis Gravel.
Ouais.
Supposons qu'aujourd'hui, tu voulais faire la même affaire. Ça se fait-tu encore dans cette dite librairie-là?
J'imagine que oui.
La réponse est oui.
Ouais, ils n'ont pas mis de surveillants, ils n'ont pas mis de garde.
Il y a quelques endroits au Canada là, où c'est patentement.
Penses-tu qu'ils connaissent pas les spots? Sérieusement? Là?
Ben oui, ils connaissent les spots, ils s'essayent.
Ben oui.
Mais moi, de voir que la librairie, à l'intérieur, est coupée en deux par une ligne noire, puis il n'y a personne qui surveille ça. Je trouve ça hallucinant. Là.
Bonjour, hi! Hi, bonjour!
Hein? Tu rentres, t'es du côté canadien, tu sors, t'es du côté américain.
Bien sûr,
de même. Personne qui pose des questions. Regarde, elle est là, la ligne noire.
C'est assez évident. Ah, ben c'est clair.
Ah, ben oui.
Mais pour vrai, c'est clair. Mais combien de...
Je peux-tu passer par là, moi, pour mes vacances d'été, mettons?
Ben,
là,
on dit que les usagers de la bibliothèque n'ont pas l'obligation de se soumettre au contrôle des douaniers.
Ça n'a pas de sens.
Bon.
Avec pack-sac.
Ça date de 1904.
Puis on laisse ça aller depuis 1904?
Oui, parce qu'on dit que c'est un passe-droit qui découle d'une entente entre les deux pays symbolisant l'amitié entre les États-Unis et le Canada, qui est en vigueur depuis l'ouverture de la dite bibliothèque
en
1904.
Là, on n'est plus amis. Il faut mettre un garde.
C'est pour les grands lecteurs. C'est un club de lecture. Ouais. Tout le monde est amis.
J'ai des statistiques intéressantes.
C'est le livre-échange.
C'est ça. Eh bon.
Ouais, il est bon. Sur ses jokes, il est encore là.
On essaie.
Oui, mais en fait, tantôt, on pensait que le Kilimanjaro, pareil, c'était au Nunavik. Hein?
C'est quoi le pourcentage des armes illégales saisies au Québec qui proviennent des États-Unis? Moi, j'aurais dit 100%. Mais à cette heure, avec les imprimantes 3D, on est capable, ben, je dis « on », mais les gens sont capables de se faire leurs propres armes à feu.
Ça, c'est malade. Là.
Donc, ça serait quoi le pourcentage, selon vous?
Qui vient des États-Unis?
Qui vient des États-Unis dans les armes illégales qui sont retrouvées au Québec.
Au moins 80%.
On est rendu à 53%.
Oh, tabarnouche!
Moi, ça aurait été 100%. Si j'avais pas entendu parler des fameuses imprimantes 3D, j'aurais dit un 100%. L'origine des trois quarts des armes de poing saisies par les policiers en lien avec la guerre des stupes, ça provient des États-Unis selon la Sûreté du Québec.
OK, 75%.
À Toronto, 88% des 717 armes à feu saisies par la police en 2024 proviennent des États-Unis. Plus de 85% des armes à feu saisies par l'Agence des services frontaliers du Canada proviennent du côté américain de la frontière en 2024. Ces statistiques sont franchement intéressantes, mais moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que on donne l'information dans le journal de comment traverser aux États-Unis ou si t'es aux États-Unis, comment traverser au Canada sans te faire chier.
Toi, tu le savais-tu avant de le lire dans le journal?
Je le savais pas.
Moi non plus.
Mais pourquoi c'est pas sorti? Ça, je comprends pas, parce que c'est sûr que c'était connu, mais sûrement que les gens gardaient un peu ça.
Ben là, c'est connu.
Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est là que ça va être intéressant. Est-ce qu'ils font rien en ce moment? Mais est-ce qu'ils vont bouger? Moi, je pense pour ça que c'est dans le journal aujourd'hui, pour décrire un peu la situation.
Ça date de 1904.
C'est une belle entente pour la lecture.
Ouais.
Les livres, mettons, sont en anglais ou en français?
Mais je te pose la question.
Ça dépend du quel bord.
C'est peut-être un jugement par rapport au pauvre journaliste qui a écrit le papier, là. Mais je dis pauvre journaliste, c'est Éric Thibault, c'est des excellents journalistes, Félix Séguin puis Maxime Delan. Mais moi, j'ai une conscience. J'ai vraiment des problèmes avec ma conscience, là. Des fois, le soir, ça me réveille à 2-3 heures du matin quand j'ai pas bien agi. C'est très rare, vous allez me dire. Mais j'ai des problèmes avec ma conscience. J'ai cette information-là, OK? Puis j'ai le choix de la diffuser dans le journal ou j'ai le choix de la garder. Moi, je la garde.
Ah ouais? Moi, je la donne.
Mais toi, tu la donnes.
Ouais. Moi, je la donne.
Je pense que si t'es journaliste, tu la donnes. Il y a tellement de choses dans les dernières années, et malheureusement, qui ont bougé par le journalisme. Parce qu'il y a eu des recherches, des demandes d'accès à l'info, que ça a paru dans les journaux, que ça a paru à la télé, qui, si jamais ça n'avait pas été là, ça n'avait pas bougé. Souvent, quand tu fais un texte de même, là, en plus, là, tu dis, hey, en passant, si vous voulez me parler, je sors ça dans deux jours. Et c'est tout le temps la façon de faire bouger quelqu'un au politique pour te parler. Parce qu'il va vouloir avoir un contrôle sur ton message, sur l'article que tu vas sortir. C'est ce qui est fascinant et super déplorable. Combien de fois on m'a adressé la parole aux politiques parce que je disais, mettons, je vais sortir ça demain. Mmh. Puis ça, c'est juste moi, ça par rapport du monde de journalistes d'enquête comme ça, comme Éric, comme Thibault, comme Félix Séguin, puis tout ça, qui font depuis des années des affaires dans les plus sombres raccoins de l'humain et de l'homérie puis du politique. D'après moi, ça a été calculé.
Moi, j'aurais gardé l'information en disant, il y a certains points sur la frontière canadienne qui permettent à des gens de passer sans avoir de contrôle douanier, mais j'aurais pas montré la bibliothèque, puis j'aurais pas dit par où passer, justement, pour que si t'es un salaud, tu puisses passer par là.
Mais en même temps, Yann, ça illustre tellement bien, parce que, tu sais, quand on s'imagine des gens passer la frontière, là, on s'imagine qu'ils se sont camouflés comme dans le film de Prédateur, qui passent en dessous d'une clôture en roulant, en rampant à terre, puis tout ça. Tu vois que c'est beaucoup plus simple que oui. Ça, là. Je suis même en train de me demander si à chaque jour, je pourrais pas rentrer par la porte nord, sortir par la porte sud, revenir avec un crate de bière par la porte sud, puis sortir par la porte nord. Là,
on a pensé pareil.
Ben là, écoute, hein, d'après moi, Stansted sont quelques-uns à y avoir pensé.
Ben c'est clair qu'ils le font.
Ben oui, voyons donc. Bonjour madame.
Bonjour.
C'est clair et net qu'ils le font. Écoute, il y a plein de commentaires par rapport à ça, mais bref. Merci, Denis.
Hey, c'était vraiment agréable.
Oui. Je te présente Pascal.
Ouais.
Si tu savais pas, je reviens pas.
Elle a monté quelques collines dans le village où elle était, qui est pas mal un endroit très plat.
J'étais sûr qu'elle était partie.
Non.
J'ai vu. Des...
Hey, ça, c'est faux, par contre.
C'est plus au loin, les montagnes.
Non, non, on
était
dans un creux de montagne.
OK, parce que les photos, ça laissait présager des plaines.
Parce que c'est tellement blanc. Des fois, je voyais pas la différence entre le sol et le ciel.
OK.
Ça te donne une idée.
Fait que là, tu te sens à Cancun aujourd'hui.
Oui, pas mal. Toi, Denis...
Moi, Cancun, j'ai plus de questions.
Toi, Denis, penses-tu que Cancun, c'est en Europe?
Cancun, c'est à Kakuna. Tout le monde sait ça.
Oui, exactement. Midi 28, on revient. Les gens t'aiment, Denis.
J'espère. On t'aime. 102 à 1. Tous les vendredis.